Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx. Les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, le manifeste du Parti communiste.
Les emballements de l'histoire sont parfois saisissants. Le 22 février 1848, la révolution éclate à Paris. Le 24, le roi Louis-Philippe abdique et la République est proclamée. Or, exactement au même moment, dès le 23 février, commence à circuler à Londres un texte puissant et radical, rédigé par deux jeunes Allemands, Karl Marx et Friedrich Engels. Ce texte, d'une trentaine de pages, c'est le manifeste du Parti communiste. Dans cette dernière semaine de février 1848, s'enclenchent ainsi les deux grands mouvements qui vont, peu ou prou, façonner l'histoire pendant un siècle et demi. D'un côté, une aspiration démocratique, héritière de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Révolution bourgeoise, donc vouée à l'échec, dira Marx. De fait, elle sera brisée par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais elle renaîtra et s'imposera deux décennies plus tard en France, puis en Europe occidentale après les guerres mondiales. Et de l'autre côté, la perspective d'une révolution victorieuse du prolétariat mondial. Pour Marx et Engels, en effet, la lutte des classes est le moteur implacable de l'histoire. Or, ils estiment que la bourgeoisie croulera sous sa propre boulimie de puissance, tandis que le prolétariat l'emportera quand il prendra conscience de sa force et s'organisera sous la direction du Parti communiste. Cette prophétie se réalisera en 1917 en Russie, au point que le manifeste deviendra l'étendard des prolétaires de tous les pays en quête d'émancipation. Quant à ces deux auteurs, Marx et Engels, ils seront les icônes sacrées brandies par Lénine, Staline, Mao et bien d'autres tout au long du XXe siècle, autant d'héritiers plus abusifs que fidèles. Pour analyser ce texte fondateur et son immense postérité, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Quétier. Vous êtes docteur en philosophie, membre du Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine de l'Université de Strasbourg et spécialiste du marxisme. Vous êtes l'auteur notamment d'un « Découvrir Marx » et d'un « Découvrir Engels » en collaboration avec Florian Gulli aux éditions Sociales. Et vous avez participé, il y a 3 ans, en l'été 2020, à la remarquable grande traversée que France Culture a consacrée à Marx. Bonjour Jean Quétier.
Bonjour.
Et nous accueillons également Salia Boussedra. Vous êtes docteur en philosophie, également membre du Centre de recherche en philosophie allemande de l'Université de Strasbourg et membre du comité de rédaction de la revue Cause commune, la revue d'action politique du Parti communiste français. Vos recherches portent notamment sur la place des femmes dans l'œuvre de Marx. Bonjour Salia Boussedra.
Bonjour.
Alors commençons par ce titre, Manifeste du Parti communiste. Depuis qu'on travaille sur cette série d'émissions, sur les manifestes qui ont changé le monde, la réaction quand on en parle est immédiate. Ah, manifeste du Parti communiste. C'est la première référence qui vient à l'esprit. Alors on va analyser évidemment son contenu en détail, mais d'une façon générale, comment expliquez-vous que ce texte-là soit devenu une sorte d'archétype des manifestes politiques, Jean Quétier?
Bah, écoutez, je crois qu'il y a dans ce texte une force à la fois littéraire et politique absolument remarquable qui, sans doute, explique la postérité que ce texte a pu avoir. Il y a des grandes formules qu'on peut difficilement oublier, le spectre qui hante l'Europe, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, qui est l'histoire de lutte de classe. Ces grandes images et cette puissance d'anticipation sont, à mon avis, des éléments d'explications qui font que le manifeste du Parti communiste a pu apparaître comme l'archétype de tous les manifestes par la suite.
Mais il y a effectivement une question de style, vous voyez, les eaux glacées du calcul égoïste, mais en même temps c'est le manifeste du Parti communiste. Alors c'est quoi cette idée de Parti communiste, Salia Boussedra?
Alors, il y a l'idée d'abord du manifeste au sens où Marx le dit clairement, il cherche à sortir cette organisation qui était la Ligue des Justes, devenue récemment Ligue des Communistes, de la logique des sociétés secrètes, des Carbonari, qui faisaient des professions de foi et qui agissaient en secret, en étant une petite minorité. Il s'agit de se déclarer de manière manifeste sur le plan public, au vu et au su de tout le monde, parce qu'il s'agit de s'adresser à l'ensemble des ouvriers, j'ai envie de dire entre guillemets aux masses ouvrières, et donc de publiciser au maximum ce texte. Parce qu'il s'agit de regrouper des gens qui partagent des mêmes valeurs sur le plan politique, mais aussi qui ont ou qui souhaitent s'organiser. En tout cas, voilà, c'est le
prémices. Ce n'est pas encore une conception de l'organisation au sens de parti communiste, parti bolchevique.
Non,
il n'y a,
on est
pas encore cela.
Non, les partis politiques au sens propre, c'est-à-dire tels qu'on les connaît, ils vont se développer, comme le dit Raymond Huard, hein, dans la naissance de la forme parti, plutôt après les années 1880, à la fin de l'Empire, voilà, dans les débuts de la Troisième République, hein, qu'on va voir se développer la forme parti telle que nous la connaissons. À ce moment-là, c'est un embryon d'organisation, mais enfin, déjà se développe la forme de congrès, la logique de la démocratie de base, hein, on est élu sur la base d'une élection, enfin la direction de la Ligue est élue sur la base d'une direction. Donc il y a déjà la mise en place d'une forme de démocratie qui vient de la base, populaire. Et ça, on le voit mis en place dès l'arrivée de la Ligue des communistes auquel donc participent Marx et Engels.
Et il y a cette idée, on lit le manifeste, les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers. Ne forme pas un parti distinct, ça veut dire que on mélange les courants. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean Tiétier?
Je crois qu'il y a l'idée qui est formulée au début de cette deuxième partie du manifeste du Parti communiste, qui est quelque chose, c'est ce que Michael Lehuy a appelé la thèse du parti dans le parti.
Michael Lehuy, un philosophe.
Un philosophe, effectivement.
Très inspiré par le marxisme.
Exactement, c'est ça, qui a écrit un ouvrage peut-être important à ce sujet, qui s'appelle La théorie de la révolution chez le jeune Marx, expliquait qu'il y avait là-dedans une thématique du parti dans le parti, c'est-à-dire que le parti communiste doit être conçu comme une fraction d'un parti ouvrier plus large, qui en constitue en quelque sorte le vivier sur le modèle, si vous voulez, de cercle concentrique, mais où les communistes ne sont jamais en position d'extériorité par rapport à ce mouvement ouvrier que Marx appelle d'ailleurs, et Engels appelle ici, un parti ouvrier. Il y aurait un parti communiste à l'intérieur d'un parti ouvrier. Alors, le terme parti ouvrier désignant ici une réalité qui, comme l'a rappelé ma collègue Célia Boussedra, ne correspond pas encore à l'époque à une organisation très structurée. Il pense notamment, et il le dit à plusieurs reprises, au mouvement chartiste en Grande-Bretagne. Il pense aussi à certains mouvements, on l'oublie généralement, mais aux États-Unis également, hein, autour de réformateurs qui pouvaient exister à l'époque. Et donc les communistes ont cette position un petit peu privilégiée du point de vue de l'analyse du processus historique, de la stratégie révolutionnaire, mais ils ne sont jamais en position d'extériorité par rapport à ce vivier ouvrier plus large.
On va y revenir, bien sûr, mais on est passé trop vite sur les deux auteurs de ce texte, Karl Marx, Friedrich Engels. Qui sont-ils? 30 ans, Karl Marx, 28 ans, Engels. D'où viennent-ils? Que font-ils? Comment sont-ils rencontrés? Comment sont-ils devenus cette espèce de couple indissociable dans la mémoire collective et ouvrière au fil des décennies qui ont suivi?
Célia Boussedra.
Oui, mais ils vont se rencontrer à Paris, hein, mais avant de se rencontrer, ce sont ce qu'on appelle des jeunes Hegeliens. Alors, Engels, plutôt d'un milieu, pour le coup, véritablement bourgeois, ce qui n'est pas le cas de Marx, hein, il vient d'un milieu plutôt petit bourgeois. Ce qui les rassemble, c'est leur côté jeune Hegelien, c'est aussi leur fascination pour la
révolution. Qu'est-ce que ça veut dire, jeune Hegelien, en fait?
Ça désigne un groupe à la fois d'étudiants, mais aussi aussi un groupe sur le plan politique, Jeune Hegelien de gauche, qui partage un certain nombre d'idées, notamment des idées d'abord libérales au départ, avant qu'il y ait des évolutions théoriques et politiques, notamment avec Feuerbach, qui va permettre à un certain nombre d'entre eux de passer vers de l'idéalisme hegelien vers le matérialisme, mais aussi d'aller, notamment avec Moses Hess, vers le communisme. Ils sont fascinés par la Révolution française, et ce qui les rassemble aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'avenir, ils n'ont plus d'avenir professionnel possible en Allemagne. C'est des gens qui ont fait des thèses ou de longues études. Ils n'auront pas de poste, clairement. Donc, ils essayent de se reconvertir dans le journalisme. Ça ne fonctionne pas, et donc, ils sont plus ou moins condamnés à l'exil. Et Marx et Engels se rencontrent véritablement à Paris. Et c'est vrai qu'à partir de cette rencontre, au fond, ils ne se quitteront plus c'est une amitié.
C'est une rencontre pas simplement physique, si j'ose dire, c'est aussi une rencontre intellectuelle. Ah oui, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre, en fait?
Bon, c'est toujours très difficile de dire ce qui s'apporte, parce que, par exemple, au départ, ce à quoi on ne s'attend pas, ce qui est assez marrant, c'est qu'au départ, c'est plutôt Engels, en fait, qui a une forme d'ascendant intellectuel sur Marx, puisque c'est plutôt Engels qui initie Marx aux théories économiques sur lesquelles il a un petit peu plus d'avance et qu'il connaît un petit peu mieux que Marx.
Parce qu'il a été envoyé par son père en Angleterre, à Manchester, pour apprendre à diriger une usine textile.
Tout à fait, mais aussi parce qu'il les a lus, les théoriciens, les penseurs de l'économie politique.
Il écrit en plus, il fait une enquête sur le prolétariat anglais.
Alors ça, un peu après, plutôt vers 1845, mais effectivement, il a déjà lu un certain nombre de penseurs de l'économie politique, pour ne citer que Adam Smith, par exemple, mais il en a lu d'autres. Et donc, c'est lui, en fait, au départ, qui initie Marx aux questions de l'économie. Il se retrouve aussi sur la relation qu'ils entretiennent par rapport aux jeunes Hegeliens, vis-à-vis desquels ils vont vite régler leurs comptes à partir de la Sainte Famille et encore plus dans l'idéologie allemande.
La Sainte Famille, qui est un des livres célèbres
qu'ils coécrivent avec Engels. Très vite, en fait, ils vont travailler ensemble sur le plan intellectuel, et après, leur destinée va plus ou moins se suivre. Marx étant dans un rapport quand même de dépendance économique, vivant dans une misère assez importante, devant
Marx qui va être obligé de s'exiler en réalité toute sa vie.
Quasiment,
à Londres, ensuite. Et c'est Engels qui, si je puis dire, paye les traites, quasiment. Enfin,
dans une certaine mesure, mais sans jamais non plus que ça permette à Marx de se sortir complètement de
cette misère.
Donc la misère, Marx la connaîtra quasiment toute sa vie. Mais après, au-delà des questions purement matérielles, qui ne sont pas négligeables, je veux dire, il sait ce que c'est que la fin de mois difficile et les dettes chez les
tiers. Il y a cette phrase magnifique de Marx, personne n'a autant parlé d'argent.
En manquant autant. Oui, c'est bon, pour le coup, on peut dire qu'il sait de quoi il parle, en fait, Mais au-delà donc de la question purement matérielle, qui n'est pas des moindres et qu'il ne s'agit pas de négliger, il y a aussi une rencontre intellectuelle. Enfin, vraiment, c'est comme parce que c'était lui, parce que c'était moi, avec la Boétie et Montaigne. Enfin, il y a une histoire d'amour et d'amitié, enfin, je sais pas comment le dire, mais qui est extraordinaire.
Et qui durera toute leur vie,
et à laquelle Engels restera fidèle bien après la mort de Marx. Et ils ont besoin l'un de l'autre. Je pense que Engels pousse Marx quand il est un peu, Et Engels apporte des informations extraordinaires à Marx. Par exemple, comment on fait pour amortir telle machine dans l'usine? Comment tu gères la trésorerie? Puisque Engels, lui, gère des usines. Hein, il sait très bien ce que c'est
de travailler. C'est un étrange alliage
c'est
de capitaliste révolutionnaire.
C'est un capitaliste accompli.
C'est un capitaliste qui va initier Marx au capital, d'une certaine manière.
Dans une certaine mesure, au départ. Après, Marx va quand même dépasser, j'ai envie de dire, le maître dans une certaine mesure, puisqu'il va prendre à bras le corps les questions d'économie politique et s'investir dans l'étude de cette critique pendant tout un temps de sa vie.
Et Jean Chrétien, il y a quelque chose qui fait encore la force de ce texte, c'est une explication du monde. Enfin, c'est l'idée que la lutte des classes, c'est le moteur de toute l'évolution de la société humaine, c'est cela?
Alors tout à fait, oui, ça je pense que c'est une des phrases les plus fameuses, je le rappelais tout à l'heure. Cette idée que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe, c'est évidemment une formule qui a vocation à expliquer de façon très large, au fond, le fonctionnement des sociétés et le développement historique. Ce qui est intéressant, c'est que de ce point de vue-là, on n'est pas simplement dans une analyse du mode de production capitaliste. On est dans une dynamique plus large, hein, qui nous renvoie à l'Antiquité, où on peut avoir d'autres luttes de classe, au monde médiéval, féodal, où on peut aussi avoir d'autres formes de luttes de classe. Et la spécificité, finalement, de la société bourgeoise, de la société capitaliste, c'est la présence d'un certain type d'antagonisme de classe, hein, celui de la bourgeoisie et du prolétariat. Alors évidemment, il y a d'autres fractions, il y a d'autres groupes sociaux, d'autres classes, etc. Mais la grande thèse de cette première partie du manifeste du Parti communiste, c'est l'idée selon laquelle il y a une grande dynamique de simplification. C'est-à-dire que les anciennes structures sociales complexes vont vers leur simplification. On va vers un affrontement de plus en plus marqué entre deux pôles. Le pôle de l'immense majorité, finalement, le pôle du prolétariat, et le pôle d'une petite minorité, le pôle de la bourgeoisie, le pôle du capital qui exploite l'autre classe. Et ça, je crois que c'est évidemment un des grands points intéressants de ce texte.
Mais en même temps, Marx d'ailleurs le reconnaîtra dans son texte sur le 18 Brumaire, il n'a pas découvert cette notion de lutte des classes, il l'a trouvée chez des penseurs libéraux, notamment Guizot, penseur qui va devenir le président du Conseil ou le premier ministre en quelque sorte de Louis-Philippe, et qui faisait de la lutte des classes une des clés d'explication de la Révolution de 89, enfin de la Révolution française. Alors qu'est-ce que Marx et Engels apporte de plus ou de différent sur ce terrain-là?
Il y a un texte où Marx le dit très clairement. Hein. C'est une lettre qu'il écrit à un de ses correspondants, Joseph Weidemeyer, le 5 mars 1852. Et dans cette lettre, il dit effectivement, je n'ai pas inventé la thématique de la lutte des classes. D'autres l'ont dit avant moi. Hein. Vous avez cité Guizot. C'est tout à fait exact. On pourrait citer d'autres cas, Augustin Thierry par exemple. Il dit, moi, la spécificité de mon analyse, c'est d'avoir fait de ce schéma-là, disons, un schéma d'explication lié à des conditions historiques déterminées. C'est-à-dire que, certes, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours a été l'histoire de lutte des classes, mais ça ne veut pas dire qu'il en sera toujours ainsi. Ça veut dire, notamment, que s'ouvre la perspective d'une société sans classe, où un jour, cet antagonisme-là, et c'est aussi évidemment tout ce qui porte le projet du manifeste du Parti communiste, ce type d'affrontement disparaîtra. Et alors, Marx ajoute que, on y reviendra sans doute, ce qu'il va ajouter également, c'est que il va falloir qu'il y ait cette période de dictature du prolétariat qui va permettre ensuite le passage à ce type de société. Et il dit, voilà, moi c'est ça la spécificité de mon analyse. Alors, on pourrait sans doute ajouter également que la façon de comprendre les classes est aussi spécifique chez Marx. Alors, évidemment, on pourrait tout à fait dire que c'est lié à une théorie de l'exploitation qui ne développera véritablement et rigoureusement qu'un peu plus tard. Mais néanmoins, il y a dans l'idée de définir les classes par rapport à une position dans les rapports de production, quelque chose qui est aussi spécifique dans la façon dont Marx va raisonner. C'est-à-dire pas simplement penser les classes à partir de niveaux de revenus, mais les penser par rapport à un antagonisme structurel à l'intérieur de rapports de production, de rapports d'exploitation, et donc une vision dynamique des classes.
Et donc, d'une certaine manière, les classes, c'est un rapport social. Mais dans ce rapport social, il y a quand même quelque chose de fascinant, c'est cet éloge de la bourgeoisie, Saliha Boussedrin.
Alors, avant l'éloge de la bourgeoisie, juste pour reprendre quand même ce que disait Jean Quétier, effectivement, c'est l'idée de sortir d'une idée selon laquelle il y a toujours eu des dominants et des dominés aussi, d'une naturalisation des classes sociales et de révéler leur caractère historique, c'est-à-dire le fait qu'on pourra un jour les dépasser et aboutir à la société communiste et à la société sans classe.
C'est ce qu'on peut appeler le matérialisme historique au sens...
analyse des classes sociales, oui, voilà. C'est parce que il y a à la fois, pourquoi c'est, je dirais moi, même naturel historique, c'est-à-dire que à la fois dans l'idéologie allemande, au moment où ils fondent, selon moi, le concept de classe sociale, ils montrent leur nécessité historique, Parce qu'à un moment donné, pourquoi il y a des classes sociales, c'est parce qu'elles répondent à un besoin. C'est ça qu'en général on comprend et qu'on a tendance à naturaliser comme étant un état définitif de toute société humaine. Lui, il en montre en effet la nécessité. Il dit que c'est parce qu'on a eu besoin et qu'on a besoin de la division du travail et que quand on arrivera à surmonter les nécessités de la division du travail, à ce moment-là, on aboutira à l'abolition de ce qui les fonde, la division du travail, donc à l'abolition des classes sociales. Mais que les classes sociales ont une fin, c'est une nécessité pour penser la société communiste. Alors après, pour ce qui est de la bourgeoisie, en effet, souvent, on a une lecture un petit peu caricaturale de Marx en pensant que tout ce qui serait bourgeois, pour lui, serait nécessairement mauvais. Absolument pas. La bourgeoisie a amené des choses extraordinaires, ne serait-ce que l'idée, par exemple, de l'égalité humaine. La déclaration des droits de l'homme, la société capitaliste, c'est quand même la société qui a besoin de l'idée de l'égalité humaine. C'est une nécessité théorique, politique, mais aussi économique, puisque c'est sur cette idée que se fonde la possibilité même que s'échangent entre elles les marchandises. Donc la société même d'échange marchand sur le plan mondial est fondée sur l'idée de l'égalité humaine.
Et donc du coup de l'égalité politique, donc c'est la bourgeoisie amène l'égalité politique.
Il y a besoin de reconnaître en amont des travailleurs de la force de travail, enfin bon, ce qu'il va penser plus tard, il existe une égalité humaine, c'est-à-dire une égalité des travailleurs, donc une égalité de cette substance qui va devenir le travail abstrait dans l'analyse du capital, c'est fondamental pour qu'il y ait un rapport d'équivalence entre marchandises et qu'on puisse, si vous voulez, les mettre sur une même balance et pouvoir les mesurer. C'est fondamental dans le cadre d'une société capitaliste, cette loi de l'échange. Donc oui, ça c'est quand même la bourgeoisie qui nous l'amène et qui pose le droit abstrait sous le coup de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il dit, tout ce qu'il dit lui, c'est que la bourgeoisie n'a pas fini la révolution. Elle a fait une révolution politique. Cette révolution n'est pas achevée. Il faut aller jusqu'à l'émancipation sociale, hein, jusqu'à la révolution sociale.
Et non seulement la bourgeoisie, disent Marx et Engels, apporte ce principe d'égalité, enfin, reconnaissent plus exactement ce principe d'égalité, mais aussi une sorte de principe de civilisation par le système capitaliste qui s'installe au milieu du 19e siècle sur l'ensemble du monde. Ils emploient le mot civilisation, c'est un apport de civilisation au monde entier, après avec des nuances, mais c'est vraiment, enfin c'est un hommage spectaculaire quand même.
Oui, alors sur la civilisation, il a quand même un petit peu de recul, parce que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elle veut faire, elle veut construire le monde à son image.
C'est ce qu'ils écrivent,
et voilà, et donc elle veut quand même le formater selon...
La bourgeoisie se façonne un monde à son image.
À son image, oui, c'est ce qu'elle entend par civilisation. Et là-dessus, il a quand même un recul critique. Il n'emploie pas le terme de civilisation de manière totalement innocente et sans aucune nuance.
Il l'emploie quand même par contraste avec les barbares.
Oui, avec les barbares, c'est vrai. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est surtout, à mon avis, ce qui est entendu, c'est l'universalisation de cette relation, de ce rapport entre prolétaires et bourgeois, et de l'universalisation de la condition ouvrière.
Jean Quétier, le manifeste renverse aussi complètement la notion de l'État tel qu'il était conçu par toutes les philosophies politiques depuis Hobbes jusqu'à Hegel.
Ben, écoutez, oui, parce que l'État est conçu dans le manifeste du Parti communiste comme un État de classe. C'est-à-dire que l'État n'est pas une institution neutre qui se tiendrait en quelque sorte au-dessus des antagonismes propres à la société.
Ni même un régulateur de ces antagonismes.
Alors, d'une certaine façon, il le régule, mais il le régule au service de la classe dominante. Parce que parfois, le pouvoir économique de la classe dominante a besoin d'être en quelque sorte contrebalancé et rééquilibré, parce que la logique individuelle de chaque capitaliste, ne suffit pas à réguler l'ensemble. Mais ce qui est fondamental, c'est effectivement le fait de concevoir l'État comme un État bourgeois, comme un État au service de la bourgeoisie. Et de ce point de vue, ça a évidemment des conséquences sur la suite. C'est-à-dire que l'État n'est pas et ne peut pas être l'horizon d'une révolution communiste, au sens où une société sans classe, telle que Marx et Engels la conçoivent dans le manifeste du Parti communiste, eh bien, devra être une société sans État. Une société sans État au sens où l'État est toujours un instrument de classe. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que dans le cadre du processus révolutionnaire,
il n'y aura pas besoin
de l'État, de façon transitoire. Mais l'horizon, c'est Et bon, souvent, par la suite, on va parler de perspective d'un dépérissement de l'État.
Pour mais dire c'est que... là où vous dites on n'aura pas besoin, mais il y a dans le texte justement du manifeste des choses assez radicales avec cette idée qu'au fond, il faut briser l'État bourgeois pour passer à cette phase où on va faire en sorte que le prolétariat libère l'ensemble de la société.
Alors, le paradoxe, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait dans la thématique de briser l'État bourgeois dans le manifeste en 1848. Et c'est même précisément ce que Marx et Engels diront en 1872 dans la préface à la nouvelle édition allemande qu'ils feront à ce moment-là. Ils diront le problème finalement, et c'est pour ça qu'il y a une évolution de ce point de vue-là dans leur pensée.
Ils disent quand même le prolétariat fonde sa domination en renversant par la violence la bourgeoisie.
Oui, ils renversent par la violence la bourgeoisie, certes, mais en se servant de l'État. En se servant de l'État pour le faire. Et c'est ça, quand même, la thématique stratégique essentielle du manifeste du Parti communiste. C'est l'idée que l'État doit être un instrument. C'est un instrument qui est, dans la société capitaliste, au service de la bourgeoisie.
Le comité de gérance, en quelque sorte. Je ne sais plus quelle est leur expression.
Absolument. Le comité des affaires de la bourgeoisie tout entière.
Le comité d'administration des affaires, oui.
Et la perspective stratégique est celle d'une prise du pouvoir d'État, de l'utilisation de l'État comme d'un instrument pour lutter contre la bourgeoisie dans le processus révolutionnaire, avec ensuite la perspective d'un dépérissement. Sauf que par la suite, et notamment, on pourra y revenir à la suite de l'expérience de la Commune de Paris, Marx et Engels diront, on a encore dans le manifeste en 1848 eu trop tendance à considérer que l'État était finalement un instrument que le prolétariat pouvait utiliser et faire fonctionner à son propre compte. Et justement, ils introduiront à ce moment-là l'idée de briser d'emblée un certain nombre de logiques qui sont des logiques du pouvoir d'État. Alors, ils prennent l'exemple de la Commune de Paris de ce point de vue-là, avec la question des armées permanentes, d'un certain nombre de tendances bureaucratiques, etc., etc. Et donc, il y aura quand même une évolution de ce point de vue-là, hein, dans leur parcours sur cette question.
Il y a une autre évolution qui va être sujet de beaucoup de discussions, c'est la question de l'utilisation du vote. Et où Engels dira, mais au fond, il y a quand même une démocratie globale qui fait qu'on ne peut pas simplement avoir un rapport violent, mais on peut utiliser le vote pour essayer d'émanciper le prolétariat.
Oui, tout à fait. Mais en fait, déjà, dès le manifeste, il parle d'une conquête de la démocratie et d'une constitution du prolétariat en classe dominante, ça déjà dit 1848. Et ensuite, l'évolution du mouvement ouvrier, de son organisation et de sa politisation, mais aussi l'évolution tout bêtement urbaine de l'organisation du pouvoir politique de la bourgeoisie avec les grandes restructurations des boulevards haussmanniens où on ne peut plus organiser les luttes de barricades comme les faisait ce qu'on appelait les 48ards par le passé implique que le mouvement ouvrier doit s'adapter en fait. Il ne faut pas oublier que Marx, la pensée de Marx et encore plus leur pratique politique, c'est une pratique qui se fait au fur et à mesure de l'évolution aussi de la société, du mouvement ouvrier, là presque de la géographie des villes et de leur constitution, et où Engels se rend compte que bon, il y a la constitution d'armée maintenant au niveau des États et qu'on ne peut plus les combattre ou les renverser comme on pouvait le croire par le passé, et aussi évolue parallèlement la question du mouvement ouvrier qui s'organise sur le plan politique.
France Culture. Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Leschi.
Parmi les apports ou les de l'analyse du manifeste, il y a cette idée que la bourgeoisie a, je cite, dissipé les illusions religieuses et politiques qui masquaient au fond les mécanismes de l'exploitation. Est-ce que sur ce point, les illusions politiques, est-ce que Marx et Engels ne prennent pas un peu leur désir pour des réalités quand on juge de ce qui s'est passé, par exemple, en 48, que Marx va analyser de manière très, très clinique?
Alors, je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur ces formules-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire table rase immédiatement de tout cela. Je pense qu'ils examinent des grandes dynamiques. Et de ce point de vue-là, ce qui les intéresse surtout, c'est la façon dont la logique du calcul égoïste, une sorte de logique un peu utilitariste, qui est propre au développement de la société bourgeoise, de la société marchande aussi, hein. Ces dynamiques-là vont s'introduire dans toutes les sphères de la société et remettre en cause toutes les croyances traditionnelles, tous les modes de vie, s'introduire un petit peu partout. Et donc, bon, par exemple, sur la question des illusions politiques, religieuses, etc., je pense que c'est lié aussi à une dynamique qui, bon, est bon an, mal an, alors évidemment, avec un certain nombre de nuances, mais quand même une dynamique de sécularisation qui va aller de pair avec le développement de cette société bourgeoise. Et je pense qu'on peut, malgré tout, le observer un certain nombre de un recul global d'un certain nombre de croyances, de superstitions qui pouvaient être encore héritées de ce vieil ordre féodal. Il ne faut pas oublier qu'en 48, on est encore au seuil de ces deux mondes, hein, le vieux monde féodal et le nouveau monde capitaliste. On n'est pas encore dans le monde capitaliste entièrement développé sur toute la planète.
D'ailleurs, il y a une prescience, puisque on dit la bourgeoisie a enlevé à l'industrie sa base nationale. On voit bien qu'une des forces du texte, c'est ce côté anticipation où on a cette idée que les œuvres intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes, hein, et l'étroitesse va être abolie d'une certaine manière, la littérature nationale et locale eh bien, vont disparaître et va naître une littérature universelle. C'est très fort, Saliha Boussedrin.
Oui, c'est ce qu'il dit, mais dès l'idéologie allemande, en fait, hein, dès 1845-46, l'universel. C'est la logique d'universalisation de la condition prolétarienne qui implique ou qui doit impliquer la prise de conscience par les êtres humains de leur appartenance à un même genre, le genre humain, l'humanité, l'idée d'humanité qui sera le nom donné au journal fondé par la suite par Jean Jaurès, voilà, j'ai envie de dire digne héritier de Marx dans une certaine mesure. Donc c'est ça dont il est question, de cette réappropriation de l'essence humaine au sens de genre humain qui est par cette société bourgeoise ou en tout cas par la société du passé qui a été séparée, où l'humanité était jusque-là aliénée, séparée d'elle-même. Et pour revenir sur cette idée d'illusion, il y a un double jeu en fait dans le manifeste du Parti communiste qui commande d'après moi une double lecture. Il y a ce qu'a dit mon collègue Jean Quétier, cette idée que la bourgeoisie apporte une démystification, elle démystifie en fait les rapports sociaux, elle fait tomber les auréoles, les illusions.
Du cynisme.
Voilà, on voit le roi est nu, si vous voulez. On voit les choses dans la violence de leurs rapports sociaux qui sont des rapports de propriété privée. Maintenant, je crois qu'il faut en arriver à une double lecture. Le regard de Marx ne se réduit pas à ce regard qui est celui de la bourgeoisie. C'est le regard que la bourgeoisie porte sur les rapports sociaux. Ce rapport et ce regard cynique, ce n'est pas celui de Marx, ni celui des communistes, ni celui des ouvriers qui sont invités, eux, à porter un rapport social alternatif à celui que impose la bourgeoisie au rapport social, qui est un rapport effectivement cynique, baigné dans les eaux glacées du calcul égoïste et réduit à l'utilitarisme pur et dur.
Mais un alternatif, mais parfois même autoritaire. Par exemple, l'idée du travail obligatoire pour tous, c'est quand même très autoritaire comme idée. Il y a l'idée quand même que la liberté individuelle ne peut pas être mise en avant par rapport à un intérêt collectif qui obligerait, par exemple, tout le monde à être astreint au travail.
Alors, la question du travail, effectivement, elle est centrale. En revanche, la lecture que vous faites n'est pas celle du manifeste du Parti communiste.
Non, c'est parce que je disais travail obligatoire pour tous.
J'ai pensé, je l'ai vu en le relisant, mais ce qui a d'absolument fascinant, ce que disait Lucien Sèvres, en disant que ce que vous venez de dire, c'est que l'intérêt collectif primerait avant l'intérêt individuel. C'est la lecture qui a été faite pendant des années, y compris par les communistes, y compris par un grand philosophe spécialiste de Marx, comme Lucien Sèvres, et il dit qu'il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte que ce qui est écrit dans le texte, c'est que le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. C'est d'abord le développement de l'individu.
La difficulté, c'est que tous les communistes, à travers le temps, vont pas avoir cette interprétation-là.
Alors, en effet, il va y avoir une mauvaise lecture, un malentendu, où
c'est
on a cru que
c'est... peut-être un malentendu bolchevique, presque.
Ça mérite une longue discussion, mais on a cru que c'était la communauté qui dominait l'individu, alors que je trouve que tout le travail de Marx, à partir de l'idéologie allemande, c'est une pensée très très profonde du développement de l'individu et de celui qu'il appelle de ses voeux, ce qu'il appelle l'individu total, c'est-à-dire celui qui n'est pas amputé par la division du travail et qui a la possibilité de développer toutes les facultés humaines, qui n'est plus entravée par la division du travail. Celui-là, c'est vraiment l'individu de la société communiste.
Qui n'est plus prolétaire.
C'est-à-dire, si vous voulez, qui est d'abord prolétaire.
Au sens où il s'est libéré de sa condition ouvrière, c'est cela.
Simplement, il s'est libéré simplement une fois que la division du travail a été dépassée et que les individus sont arrivés à une association libre. Puisque dans les classes sociales, les individus ne sont pas totalement libres. Ils sont justement dominés par l'esprit de la communauté de classe. Ils sont comme la famille. On est dominé par la personnalité de la famille, par la communauté familiale. L'idée, c'est le développement de l'individu qui ne subit plus la communauté, mais qui s'associe avec les autres individus de façon libre.
Alors, on a fait un grand bond en avant, mais on va revenir quand même au texte du manifeste et à cette dialectique qui est le cœur de la démonstration et qui conduit à penser Marx et Engels que, inéluctablement, le prolétariat l'emportera contre la bourgeoisie, que, inéluctablement, la bourgeoisie fabrique ses propres fossoyeurs, je cite, et périra de sa propre boulimie de pouvoir et de puissance. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est inéluctable, Jean Quétier ?
Alors, bon, il est vrai que ce type de formulation pose question. Il est certain que, prise au pied de la lettre, ces formulations semblent difficilement tenables et relève sans doute d'une sorte d'optimisme sur le développement historique, mais qui peut s'expliquer. Disons, on est en 1848, on est dans une période qui, depuis au moins 1789, est une période de révolution, de grand bouleversement, où qu'est-ce qu'on voit depuis la fin du XVIIIe siècle ? On voit des progrès dans des domaines fondamentaux, politique, économique, technique, scientifique, qui disons explique aussi, je pense, une certaine foi dans ce progrès humain qui va inéluctablement, alors évidemment, sous la forme d'une philosophie de l'histoire.
C'est une des forces du manifeste, d'ailleurs, alors, de porter cette espèce d'espoir et de perspective positive et émancipatrice.
C'est tout à fait, et puis je pense qu'il y a aussi une fonction propulsive dans ce type de formule, c'est-à-dire que ce type de formule permet aux lecteurs qui vont ensuite s'engager dans la lutte de considérer qu'ils ont d'une certaine façon le sens de l'histoire avec eux.
Ils sont dans le sens de la roue de l'histoire.
Exactement, exactement. Alors bien sûr, avec le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, ces formules sont sans doute à nuancer. Et d'ailleurs, il y a d'autres textes dans lesquels Marx est plus nuancé que cela. Il faut aussi prendre le manifeste. On parlait en début d'émission de la dimension littéraire du texte qui est très forte. Et donc il faut aussi considérer que ces formules sont des formules. Ce sont des formules qui peuvent être lues de façon très contradictoire. Et l'histoire du XXe siècle montrera évidemment que la dynamique historique est beaucoup plus complexe que cela et que le caractère inéluctable de la victoire du prolétariat est évidemment quelque chose à nuancer. Même si il faut dire que pendant des décennies qui vont suivre, les raisons de penser qu'on allait aller vers une victoire progressive du prolétariat existent, puisque le mouvement révolutionnaire va s'étendre sur l'ensemble de la planète dans les décennies qui suivront.
Qu'est-ce qui explique, et est-ce que ce n'est pas un des points aveugles, au fond, de l'analyse de Marx et Engels, d'imaginer que, économiquement, que la mécanique économique conduira inévitablement à une crise définitive ? Salia Boussedra.
Moi, je reprendrai ce qui vient d'être dit. Je pense que, je vois Marx et les jeunes intellectuels allemands comme des gens qui n'attendaient qu'une chose, c'est que la révolution arrive enfin en Allemagne. C'était des très grands admirateurs de la révolution française, cette grande déflagration, la grande révolution. Et le 19e siècle est, ça vient d'être dit, le siècle des révolutions. Donc je crois que ils les vivent in vivo, j'ai envie de dire, ces révolutions, la révolution de 48 qui s'étend à toute l'Europe et qui devient le fameux printemps des peuples, donc la révolution de juillet en 1830, etc. Donc je pense que dans ce cadre-là, oui, il peut considérer ou penser qu'il y a quelque chose d'imminent, d'urgent. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça qui est forcément le plus intéressant. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est que en 1848, dans ce manifeste, il arrive à préfigurer, dans une Europe qui est encore essentiellement paysanne, le théâtre, parce qu'on peut parler de théâtre, c'est un grand lecteur de Shakespeare, de Goethe, de Schiller, le théâtre de ce qui va être la société que nous connaissons aujourd'hui, la société capitaliste.
Oui, il y a une forme d'anticipation extraordinaire.
Je veux dire, c'est ça qui est absolument fascinant quand on lit le manifeste.
Alors, vous dites que la révolution n'arrive pas en Allemagne, mais il y a un pays où la révolution va arriver, il va du reste écrire beaucoup dessus, c'est en France, c'est la Commune de Paris. Et donc, dans cette Commune de Paris, il y a une notion qui apparaît, mais qui était déjà un peu dans le manifeste, mais qui va apparaître en disant « c'est cela que je voulais dire », c'est l'idée de la dictature du prolétariat. Et ça, ce n'est pas rien. Ça vient...
Oui, alors la dictature du prolétariat, alors pour les marxistes, c'est très connu, mais ça s'est diffusé dans le sens commun d'une manière qui est héritière de l'histoire du XXe siècle. Pour le Marx du XIXe siècle, c'est très très simple. Lui, il fait référence à la dictature au sens romain, c'est-à-dire que c'est une prise de pouvoir temporaire, transitoire, sur un temps déterminé pour pouvoir accélérer les prises de décision. Et ce sont des décisions qui sont d'ordre économique. Hein, il s'agit de faire passer cette puissance sociale qu'est le capital de la propriété privée à la propriété publique. C'est vraiment des décisions de l'organisation de ce type de propriété. C'est ça qu'il faut absolument gérer. Il s'agit pas d'aller, par exemple, persécuter les individus. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir, la dictature du prolétariat, avec ce que nous avons connu sous Pétain, avec les nazis, les Mussolini, les fascistes.
Mais peut-être aussi avec ce qu'on a connu sous les staliniens. Et comment se fait-il que dans le texte, il n'y ait pas eu quelque chose qui fait que, justement, le basculement n'ait pas eu lieu ? Parce que vous dites les nazismes, mais il y a aussi le stalinisme.
Oui, oui.
Ou Trotsky disait que c'était deux étoiles jumelles. Salia Boussedra.
Vous voulez dire le stalinisme et le nazisme ?
Oui.
Bon, Staline a quand même combattu les nazis, donc je les mettrai pas exactement au même niveau. Mais j'estime que ils se sont fait la guerre. Je veux dire, voilà, ils défendaient
bien
pas
sûr
exactement les mêmes valeurs. Mais
sur le terrain de la dictature,
mais sur le terrain de la persécution
La liberté individuelle,
bien
disons,
sûr, de la liberté,
c'est ça le sujet.
De la liberté individuelle, de la persécution des points de vue minoritaires, du parti unique, etc. Bon, tout ça, évidemment, c'est condamnable, mais c'est surtout que ça n'a rien à voir. En tout cas, de mon point de vue, avec Marx et surtout avec ce qu'il entend par dictature du prolétariat. Lui, ce qu'il demande, c'est que le prolétariat se constitue en classe dominante, c'est-à-dire la position qu'occupe actuellement dans notre société ou sur le plan contemporain la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'elle est aux commandes de l'État, plus ou moins, et que sur un temps bref, au moment où il faut transformer dans le cadre de cette période révolutionnaire où il faut prendre des décisions très rapides, pouvoir prendre l'appareil d'État et modifier la nature de la propriété privée, en particulier cette puissance sociale qu'est le capital. Je crois que c'est surtout ça dont il s'agit, et en aucun cas il ne s'agit de s'attaquer aux individus ou de les persécuter ou que sais-je.
Mais il y a quand même cette phrase dans le manifeste, au moment de la révolution, cela ne pourra naturellement se faire tout d'abord qu'au moyen d'interventions despotiques. La notion de dictature du prolétariat, il l'inventera ou il la formulera un peu plus tard, après l'échec justement des révolutions de 48 en Europe. Mais il y a déjà cette idée de la nécessité d'une violence libératrice pour la prise du pouvoir.
Oui, tout à fait. Mais despote, c'est au sens de dictateur, de celui qui commande, au sens romain. Et le despotisme ici se fait sur expropriation de la propriété foncière et affectation de la rente foncière aux dépenses de l'État, impôt fortement progressif. C'est ça qu'il appelle des actions despotiques. Mmh. Enfin, un impôt fortement progressif, ce n'est pas ce que nous, on comprend par le mot despotique, parce que nous, on a été imprimé par l'histoire du XXe siècle. Encore une fois, Marx n'était plus là au XXe siècle. Et voilà, c'est pas ça dont il voulait. C'est pas la persécution des individus.
C'est la question de son héritage. Mais question complémentaire. Alors, ça n'est pas présent, me semble-t-il, dans le manifeste, mais ça a été développé ensuite par Marx et par Engels dans d'autres textes. Quel est le rapport au vote, à l'élection et au suffrage universel,
Jean-Pierre?
Oui, alors peut-être en complément sur la question des mesures despotiques, il faut lire la phrase en entier. Hein. Ce sont des intervention despotique dans le droit de propriété et les rapports bourgeois de production. C'est pas une intervention despotique contre les individus. Et ma collègue Salia Boussedra a cité un certain nombre de mesures. Dans les 10 mesures qui sont présentées comme exemple, il y a aussi la mesure numéro 10, c'est l'éducation publique et gratuite de tous les enfants. Cela étant dit, sur la question du vote, pour revenir à la question initiale, la question du vote, c'est évidemment une question complexe parce que on est aussi dans les balbutiements de ce qui va devenir la démocratie politique représentative en Europe occidentale. On est en 1848. Alors évidemment, le cas de la France est un cas de ce point de vue qui est intéressant parce que à travers justement, alors évidemment, on est déjà un petit peu après le manifeste, à travers l'expérience de la Deuxième République. On voit des grandes expériences de vote qui sont déroutantes. La plus significative peut-être, c'est celle de décembre 1848, qui est la première, vous le savez, élection du président de la République au suffrage universel en France.
Qui est la première application du suffrage universel masculin en France.
C'est la première sous la forme de l'élection du président de la République. Il y a eu d'autres formes antérieures, mais sous la forme de l'élection du président de la République, cette première expérience conduit à donner de façon écrasante une majorité à celui qui va devenir Napoléon III. Donc il y a aussi cette dimension là qu'il faut prendre en compte et qui peut expliquer le fait de considérer le vote sous cette forme-là comme étant le vecteur principal de l'action réformatrice révolutionnaire n'est pas forcément absolument évident, même si bien entendu Marx et Engels sont des gens qui accompagnent toutes les grandes batailles pour l'extension du suffrage dans différents pays. Je parlais tout à l'heure du mouvement chartiste en Grande-Bretagne. C'est la grande bataille du mouvement chartiste que d'étendre le droit de suffrage progressivement, etc. Alors, les choses vont changer progressivement. Il y a un grand moment, je dirais, de rupture de ce point de vue-là. C'est ce qui va se passer à partir des années 1870 en Allemagne, avec la présence pour la première fois d'ouvriers élus au Reichstag. Ça, c'est de socialistes qui vont prendre de plus en plus d'importance. Les scores que vont obtenir les élus du Parti social-démocrate allemand sont des scores qui sont de plus en plus important, et à la fin de la vie d'Engels, parce que Marx meurt un petit peu avant, mais à la fin de la vie d'Engels, il voit bien, il constate cela. Et donc, il est obligé de prendre en compte de façon plus frontale la question du suffrage universel et du vote. Et il y a un texte tout à fait important, tout à fait célèbre de ce point de vue-là, qui est le dernier texte, d'ailleurs, qu'Engels a écrit en 1895, qui est l'introduction des textes de Marx, qui s'appelle « Les luttes de classe en France », et où il va justement se confronter à cette question du suffrage universel, se demander comment on peut expliquer que le suffrage universel, comme il le dit, et pu passer finalement du statut d'instrument de Dupri à celui d'instrument d'émancipation. Et ça, c'est un élément de réflexion intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aurait un basculement complet, qu'on serait passé d'une perspective qui serait celle de la révolution violente à celle de la révolution par les urnes en quelques décennies. Mais il y a une intégration beaucoup plus complexe du rôle que le suffrage universel est susceptible de jouer aussi pour faire progresser la conscience de classe, pour prendre conscience d'un rapport de force qui est de plus en plus important, parce que ça va être au fond toute la dynamique des décennies qui vont de 1800 des années 1840 jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est de passer de la logique des révolutions faites par les minorités héritées des vieilles sociétés secrètes à la révolution de la majorité.
Ça va être très compliqué puisque, en réalité, ceux qui vont, enfin, j'en sais rien si c'est en réalité, mais en tout cas, il y a cette phrase qui va amener sans doute à l'idée qu'il faut construire quand même des instruments qui échappent à l'idéologie dominante, c'est que les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Et donc, comment on s'exonère de ces idées de la classe dominante à travers le vote? C'est un peu ça la difficulté, Salia Boussedra.
Oui, c'est une grande question que d'échapper à la question de l'idéologie dominante. Mais je crois que là-dessus, le mouvement ouvrier a répondu par ses propres organisations, par ses propres écoles de formation. Justement, c'est tout ce qu'ils ont fait pour diffuser la pensée de Marx et d'Engels en éditant, alors des fois c'est vrai de manière un peu sous la forme de catéchisme malheureusement, mais en tout cas c'est tout le travail du mouvement ouvrier pour s'éduquer par ses propres moyens, les universités populaires.
D'échapper à l'idéologie dominante.
Exactement, d'avoir, de créer ses propres outils d'émancipation et d'éducation. Voilà, et dans ce cadre-là, la lutte pour une école gratuite et publique d'éducation des enfants qui n'entrent pas directement à l'usine, mais qui reçoivent quand même une éducation et qui les échappe au travail d'exploitation et qui ne finissent
encore
pas.
Encore que c'est une discussion très vive au sein du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, de savoir si on peut confier comme ça les enfants à une institution qui est politique, dominée par l'État bourgeois, et qui donc du coup pourrait inculquer à ses enfants l'idéologie dominante. C'est pas aussi simple que ça au début.
Non, c'est vrai, c'est pas aussi simple que ça. Bon, d'abord, il y a toute la bataille aussi avec l'Église, hein, qui veut avoir sa part du gâteau. Il y a aussi la conception que se fait Marx de l'école, qui n'est pas tout à fait où il pense qu'il ne faut pas 8 heures de cours théoriques, mais où il faut aussi qu'il y ait une partie de cours pratiques. Un peu comme nos lycées professionnels, oui, qu'on est en train un peu de...
D'ailleurs, il y a une valorisation de l'apprentissage.
Tout à fait. En tout cas, voilà, de cours théoriques, voilà, il faut des cours théoriques. Mais aussi, derrière, il faut l'après-midi des cours pratiques. Et mais pourquoi c'est toujours sur la même base de ce qu'il faut dépasser la division du travail et que l'individu total vers lequel on tend, c'est un individu qui est en mesure de développer toutes ses facultés humaines et qui n'est pas amputé, soit en étant juste un manuel, soit en étant juste un intellectuel.
Je reviens d'un mot sur la question du vote et de l'exercice démocratique. Ça va quand même être le grand schisme entre les socialistes et les communistes au XXe siècle. Et ça commence avec la critique de Jaurès, qui doit dater de 1901, il me semble, dans un texte précisément sur le manifeste, qui pose cette question-là, récuse le principe même de la révolution violente, et qui dit au contraire que, à ses yeux, le prolétariat, par le suffrage universel, peut élargir progressivement une marge de progression de ses droits et de son pouvoir presque illimité. C'est à peu près les termes de Jaurès. Donc il y a quand même ce clivage profond, au moins dans la perception qu'on peut en avoir à l'époque, entre une démarche qui passe par une phase de dictature, quelle que soit, même si on l'entend au sens romain du terme, comme vous dites, est une phase démocratique.
Oui, alors, il faut dire que le cas de Jaurès est évidemment complexe, c'est-à-dire qu'il est difficile de dire que Jaurès, de ce point de vue-là, serait forcément d'un côté ou de l'autre de la division des socialistes et des communistes, puisque, comme vous le savez, son décès en 1914 ne lui a pas permis de voir... ces évolutions-là et cette grande scission du mouvement socialiste qui va se faire autour de la constitution de la Troisième Internationale. Donc, c'est évidemment, on peut tirer on peut faire des hypothèses, mais...
Non, il y avait quand même une vraie différence d'analyse au sein du mouvement ouvrier à l'époque.
Absolument. Absolument, mais je pense qu'on ne peut pas non plus entièrement tirer Jaurès du côté d'une critique du marxisme. C'est-à-dire que Jaurès est quelqu'un qui va chercher à complexifier l'approche marxiste. Il développe dans ces textes-là toute la perspective de ce qu'il appelle un réformisme révolutionnaire. Où donc on n'est pas... entièrement du côté de l'abandon de la perspective révolutionnaire, mais où on intègre cette idée d'un processus de long terme qui va passer par des réformes qui vont elles-mêmes avoir une signification révolutionnaire, c'est-à-dire une signification de rupture avec l'ordre capitaliste. Et donc, c'est évidemment, de ce point de vue-là, un prolongement, de l'approche marxiste, mais à mon sens, ça n'est pas une rupture. Et je pense que Jaurès, de ce point de vue-là, évidemment, dit qu'il y a des choses que chez Marx, il ne reprend pas. Mais... on pourrait dire cela d'une certaine façon de toute la tradition marxiste et de toutes les traditions marxistes d'une certaine façon, puisque c'est à mon sens en tout cas ce qui fait leur richesse au cours du XXe siècle, c'est cette capacité à s'approprier un héritage et à tâcher à chaque fois de l'adapter aux conditions présentes, aux conditions diverses dans lesquelles le mouvement ouvrier est placé à chaque moment de son histoire.
Alors il y a une autre critique vis-à-vis du peut-être qui fait un peu le bilan du caractère un peu prophétique, inéluctable, c'est la critique de Léon Trotsky qui dit peut-être on a surestimé le fait que le prolétariat, par son mouvement, par sa situation sociale, pourrait absolument précipiter les révolutions. Parce que il y a l'expérience du stalinisme qui montre que malgré tout, il y a un recul possible et qui est même terrible, Célia Boussedra.
En fait, c'est toujours très difficile de mettre sur le même plan d'un côté Marx, de l'autre Staline, en tout cas pour moi, puisque j'ai envie de dire presque tout pour moi.
Ils s'en revendiquaient quand même beaucoup.
Oui, mais c'est pas. Enfin, Marx ne l'a pas reconnu pour son héritier.
Ah, Marx n'a reconnu aucun marxiste.
Lui-même se disant comme n'étant pas marxiste.
Donc, et Trotsky était plus son héritier que Staline, c'est sûr.
Disons Lénine sans doute aussi de ce point de vue, mais plus sérieusement, le problème c'est que du point de vue de Marx, la révolution, il fallait qu'elle soit immédiatement mondiale, internationale, et que les bolcheviques, en tout cas en Russie, ils décident d'arrêter les choses et de faire la révolution que dans un seul pays. Voilà, ce qui va entraîner un certain nombre d'autres problématiques, oui.
Gérard Courtois, mondial, international, c'était ça quand même l'idée qu'on s'adresse aux prolétaires de tous les pays?
Absolument. Et faisons un bond dans le temps de 150 ans, 1998, 150 ans après la publication du manifeste, Slavoj Žižek, philosophe slovène, a préfacé une nouvelle édition déjà du manifeste du Parti communiste, et il soulignait combien quelques années seulement après l'effondrement de l'URSS, il était facile de discréditer Marx au motif de la terreur et du goulag soviétique, facile aussi de constater que le communisme imaginé par Marx, Engels, aura été une idée qui a ensuite échoué dans sa réalisation. Donc, facile de conclure à une idée obsolète. Mais faisant référence au préambule du manifeste sur le spectre qui hante l'Europe, il titre son texte le spectre rôde toujours. Et effectivement, de fait, et on l'a évoqué pendant toute cette heure de discussion, de conversation, l'explication du monde proposé par le manifeste reste à bien des égards d'une modernité tout à fait remarquable et tout à fait même par moments impressionnante. Plus que jamais, les productions, les marchés sont mondialisés. Plus que jamais, la croissance folle de la circulation du capital, et c'est encore plus vrai évidemment qu'au temps de Marx et Engels, impose sa loi. Et quant au mécanisme de la domination sociale, démonté par le manifeste, il reste d'une évidente actualité. Ce que Marx et Engels, malgré tout, avaient sous-estimé, c'est la capacité du capitalisme à se nourrir de ses propres crises, à déjouer tous les mouvements qui auraient pu menacer sa survie et à faire tourner, depuis deux siècles, la roue de l'histoire à son profit.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky, préparée par Seam Boutata, réalisée par Guillaume Baldi, avec Manon Houssin à la technique. Demain, Émile Zola, J'accuse.